Comme nous avons lu hier la prière de l'apôtre Paul, l'adressée à Dieu pour les Philippiens, j'aimerais introduire ce dernier moment par une autre prière de l'apôtre Paul, pour que nous apprenions aussi à prier comme lui priait. Parce qu'il a dit, tout ce que je désire, c'est que vous soyez comme moi, hein, comme moi en toutes choses, sauf être prisonnier. Mais être comme lui, pouvoir prier comme lui. C'est dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens. Il dit, après avoir rendu grâce pour tout ce que nous avons reçu du Seigneur, pour toutes ces bénédictions spirituelles que nous avons, que nous possédons en Christ. Il dit au verset 15, « À cause de cela, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet. » Est-ce que vous serez occupé dans la semaine qui a commencé aujourd'hui? Est-ce que vous serez occupé à remercier Dieu au sujet de l'un ou de l'autre, dont vous aurez appris à connaître un peu la vie, dans les contacts que vous avez eus? Vous avez été édifié peut-être par la foi de l'un ou de l'autre, par un témoignage, et alors ayant entendu cela, eh bien, ça va vous pousser à remercier Dieu pour cette personne. Et c'est ainsi que des prières d'action de grâce vont abonder vers le Père. Je me souviens de vous dans mes prières. C'est tellement beau ça. On va se souvenir les uns des autres. Quand? Dans mes prières. Quand on entrera en prière. Il n'y a pas besoin de faire une liste de prières. Mais quand on se recueille devant le Seigneur, qu'on dit, Seigneur, occupe mes pensées, tout à coup, il met un visage dans votre pensée, puis une action de grâce ou une requête pour cette personne. Je me souviens de vous dans les prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit et qui vous fera comprendre et qui vous révélera Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez. Oh, apprendre à connaître Dieu dans tout ce qu'il est. Vous n'auriez pas besoin d'autre chose. Si dans votre vie vous découvriez vraiment dans cette semaine ce que Dieu est, de quoi auriez-vous besoin? Si vous découvriez tout ce que Dieu est, non pas seulement que vous vous souveniez de ce qu'il a fait, mais si vous vous souvenez de ce qu'il est. Dieu, de ce qu'il est, le Très-Haut, le Tout-Puissant, cet ami fidèle et tendre dont nous avons chanté quelque chose. Bien, je demande que vous le connaissiez tel qu'il est. Et je demande que vous receviez la lumière en votre être intérieur. Il voudrait vous éclairer intérieurement. Pourquoi? Afin que vous voyiez à quelle espérance Dieu vous a appelé. C'est quelque chose de merveilleux. Si vous vous souvenez à quoi Dieu vous a appelé, il vous a appelé à quoi? À son propre royaume et à sa propre gloire. Quel appel vous avez reçu? Bien, vous devez vous souvenir où que vous vous trouviez, dans quelles circonstances que vous vous trouviez, vous devez vous souvenir de cette espérance à laquelle Dieu vous a appelé et quelle est la richesse de l'héritage magnifique qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous savez qu'il y a un héritage qui vous est réservé si vous lui appartenez? Et en prenant part au repas du Seigneur, vous avez témoigné que vous lui appartenez. Eh bien, si vous lui appartenez, vous aurez part à cet héritage. Et quelle puissance extraordinaire Il dispose pour nous les croyants. Oh, je voudrais que vous puissiez partir avec cette certitude. Vous êtes sans force, mais il y a une puissance extraordinaire mais qu'il met en réserve, qu'il dispose pour nous les croyants. Alors, à nous de saisir cette puissance, comme je vous le disais hier. Vous avez la vie éternelle, mais saisissez alors la vie éternelle. Saisissez les possibilités qui vous sont données et saisissez-les quotidiennement. Ces compassions se renouvellent chaque matin. C'est chaque jour. Voilà encore un texte où il est parlé de ce renouvellement. Les compassions du Seigneur se renouvellent chaque matin. Alors nous pouvons commencer la journée avec le Seigneur. Et quand vous voulez savoir, mais au fond, quelle est cette puissance? Comment est-ce que je peux mesurer la puissance que le Seigneur met à ma disposition? Regardez un peu plus loin. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ de la mort à la vie. Vous rendez-vous compte? La puissance qu'il met à votre disposition, dont vous pouvez disposer, c'est la puissance même que Dieu a employée pour ressusciter son Fils, pour le faire sortir de la mort. Et il vous dit, et Dieu n'est pas un menteur, que c'est cette puissance-là qui est à votre disposition. Alors nous pouvons louer, nous pouvons bénir, nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Béni sois-tu parce que cela est vrai, ce que nous venons de lire. Et nous te remercions de ce que la prière de ton apôtre était aussi une prière pour nous. Nous te louons parce que ta propre prière, ô Jésus, cette prière qui est montée de ton cœur en Gethsémané, la nuit où tu fus livré, a été exaucée. Tu as prié pour ceux qui viendraient à croire par la parole de tes disciples. Et nous qui ne t'avons pas vu, nous avons pourtant cru, et nous avons cru par la parole que tes disciples nous ont transmise. Et aujourd'hui, nous croyons encore à ces paroles. Et nous savons que maintenant que nous t'appartenons, que tu as un désir pour nous, que tu as une volonté pour nous. Et tu l'as dit aussi dans ta prière. Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Oh, nous te bénissons parce que tu nous révèles ta volonté à l'égard de chacun de nous, à l'égard du petit Matthieu, comme à l'égard du plus âgé parmi nous. Loué sois-tu pour cette place que tu nous réserves dans la maison du Père. Et pour que nous marchions jusque vers cette maison, tu mets à notre disposition cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rien ne pourra nous entraver et nous voulons courir maintenant la course, les yeux fixés sur Jésus et Jésus seul. Amen. Eh bien, mes amis, la vie chrétienne, un choix quotidien, nous voulons espérer que vous repartirez de Parkside Ranch en ayant saisi que cette vie chrétienne, c'était la vie même de Jésus qui désire se manifester dans notre chair mortelle. La vie chrétienne, ce n'est pas un idéal que nous nous efforçons de poursuivre, vers lequel nous désirons tendre. La vie chrétienne, c'est Jésus en nous, et qui veut grandir, qui veut croître, qui veut de plus en plus remplir toute la place, devenir le maître de nos pensées, afin d'inspirer aussi nos paroles et nos actes. Parce que nos actes ne sont que le prolongement visible de nos pensées et nos paroles le prolongement audible de nos pensées. Nous manifestons par nos paroles et par nos actes de la vie quotidienne qui est le maître de nos pensées. Eh bien, Seigneur, amène toutes nos pensées captives à ton obéissance. Et alors pour cela, eh bien je répète encore, parce que je voudrais que ces textes soient imprimés dans votre cœur, veillez chaque jour, veillez à ces portes, car Jésus le disait dans la nuit où il fut livré, l'esprit est prompt, la chair est faible. Veillez pour prier. Et cela, c'est chaque jour. Ne nous relâchons pas. Soyons de ces vigilants, de ceux qui veillent. Et puis, non seulement, maintenant que je sais que chaque jour j'ai à veiller, je sais aussi que chaque jour j'ai à porter ma croix, que j'ai à marcher en portant la croix de notre Seigneur. Prends ta croix chaque jour. Et chaque jour, là où la vie de la chair voudrait se manifester, porte partout dans ton corps la mort de Jésus. C'est là cette application de l'apôtre Paul quand il dit « Je meurs chaque jour ». Pour que la vie de Jésus se manifeste dans notre chair mortelle, quand la vie charnelle veut se manifester ou voudrait prendre le dessus, il a dit, nous portons chaque jour la mort de Jésus. Nous nous souvenons que nous sommes morts dans la mort de Jésus. Et nous nous regardons comment je suis mort. Dans la puissance du Saint-Esprit, nous disons, je suis mort. Seigneur, je suis mort. Et c'est là qu'il y a la puissance pour ne pas pécher. Un mort ne pêche pas. Un mort évite la tentation. On peut le tenter, les tentations sont là, mais vous restez dans cette mort. Seigneur, donne-moi d'être réellement identifié à toi dans ta mort. Et vous voyez alors, la force qu'il y a dans le repas du Seigneur, c'est que chaque semaine, quand on communie, on se replace devant ce seul sacrifice, et chaque semaine on se souvient, comme Jésus est mort, je suis mort. Comprenez-vous? Et on a besoin de se souvenir ça, je suis mort. Je suis mort. Et même, il est dit que les premiers disciples, ils communiaient tous les jours, chaque jour. Donc vous voyez, c'est chaque jour qu'on devrait pouvoir se souvenir que nous sommes morts. Et vous n'avez la victoire sur le péché que dans cette mort. Que de fois, moi je me suis dit, pour que je ne pêche plus, il faudrait que je sois mort. Hein. C'est vrai. Une fois que je suis mort, c'est fini. Eh bien oui, ben, n'attends pas d'être mort physiquement, mais considère-toi déjà maintenant comme mort. Relisez Romains 6. Il y a une puissance. La puissance de délivrance, elle est dans cette application par la foi. Et c'est ça la vie de la foi. Vous êtes sauvés par la foi. Comprenez-le bien. Hein? Vous croyez tous que vous êtes sauvés par la foi. Pas par les œuvres. Hein? Par la foi. Vous savez que Jésus a porté vos péchés. Vous savez que le jugement est passé, qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Mais ce salut par la foi doit être suivi d'une vie de foi. On est sauvés, dit Paul, par la foi et pour la foi, pour vivre une vie de foi. Et c'est peut-être assez facile de croire que Jésus est mort pour nos péchés. C'est vrai, hein, vous le croyez. Vous l'avez cru que Jésus est mort pour vos péchés, que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais ce qui est plus difficile, et c'est ça la vraie vie de la foi, c'est de croire qu'on est mort, qu'on ne le sent pas. Ça, c'est contraire à notre expérience. Je dis, mais je suis bien vivant. Je suis bien vivant, puis j'ai tous ces désirs, ces tentations. Oui, eh bien, justement, contrairement à ce que tu ressens, dis, je suis mort. C'est ça la foi. Hein. Parce que tu ne vois pas que tu es mort. Tu te vois bien vivant avec tous tes désirs. Et tu dis, je suis mort. Ça, c'est là. Comprenez-vous? C'est contraire à notre expérience. Eh bien, c'est ça le secret. Vivre par la foi et pour la foi. Quand expérimentalement, vous vous voyez bien vivant, vous prononcez sur vous la sentence de mort. Je suis mort. Je suis mort. Dites-le. Est-ce que le Seigneur le fera? Il le fera. Mais il faut le dire. Il faut oser le dire. Je suis mort. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Comment en être sûr? Est-ce que Jésus est mort? Oui ou non? Est-ce que Jésus est mort? Oui. Bien, s'il doit mourir. Il est mort et c'est fini. Et maintenant, il ne meurt plus. Hein. Il est mort. Mais quand il est mort, c'est pour qui qu'il est mort? C'est pour nous autres. Mais c'est parce qu'il nous avait pris en lui, sans ça, il ne mourrait pas. S'il est mort, c'est pas seulement parce qu'il avait pris nos péchés, mais il a pris le pécheur. C'est ça qu'il faut dire. Il n'a pas seulement pris vos péchés, mais il a pris celui qui pêche pour le libérer. Alors maintenant, Jésus ne nous demande plus d'essayer de vivre en chrétien. Il nous dit, laisse-moi vivre en toi. Je suis ta vie. En dehors de cette vie, tu n'en as pas. Je suis ta vie. Alors, tu es ma vie, Seigneur. Le Christ est ma vie. Que le Saint-Esprit vous pénètre et que vous puissiez saisir que c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Le Christ est votre vie. Ne vous regardez plus vous-même. Regardez le Seigneur. Et dans la mesure où vous contemplez le Seigneur dans toute sa gloire, cette vie qu'il a, vous avez le droit de dire, c'est la mienne. C'est ça qui est fantastique. Et alors, quand vous regardez votre vraie vie, qui n'est pas celle que vous voyez, hein, si vous regardez votre nombril, il est plein de poussière. Ce n'est pas cela que vous devez regarder. Cessez de vous regarder vous-même. Regardez le Seigneur. Et alors, le Seigneur, dans tout l'éclat de sa gloire, de sa beauté, c'est lui qui est votre vie. Tu es ma vie. Ta vérité, ta justice, ta sainteté, ton amour, ta grâce, ta lumière, c'est ça ma vie. La lumière de Jésus, c'est ma lumière. La vie de Jésus, c'est ma vie. Alors, qu'est-ce qui arrive dans nos cœurs? L'adoration. Nous tous, en le contemplant, non pas nous nous transformons péniblement, mais nous sommes transformés. Il suffit de ce regard. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Mais il faut pour cela que le Seigneur occupe nos pensées. Tout est là. Seigneur, apprends-moi à penser comme toi tu pensais. Il pensait toujours à son Père. Il n'était jamais préoccupé de lui-même. C'était toujours le Père. Il rendait grâce au Père. Il louait le Père. Quand il avait une joie, il disait, je te loue au Père. Tout était rapporté, tout revenait au Père. Et quand il fallait une manifestation de puissance, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare, sors dehors. Tout est attribué au Père. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. Je fais ce que le Père m'a montré. Mais les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis. Je transmets les paroles que j'ai entendues du Père. Alors, laissons maintenant cette vie de Jésus, qui est la vie du Fils, la vie du Père, laissons cette vie se manifester en nous. Examiner chaque jour les Écritures pour savoir, mais ce qu'il nous a dit ici, à part Saïd Ranch, le 21, est-ce que c'était lui qui le disait ou bien est-ce que c'était sa parole? Je ne suis pas du tout heureux quand on dit on est d'accord avec vous, monsieur. C'est pas avec moi qu'on est d'accord. Est-ce que ce que vous avez entendu, est-ce que c'était sa parole? Est-ce que vous pouvez prendre au sérieux le message? Ou bien est-ce que c'est les idées d'un certain bonhomme? Non. C'est sa parole. Et revenez à sa parole. Devenez intime dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qui était enseigné correspondait à ce que les prophètes, ce que les psalmistes, ce que Moïse avait pu dire. Et puis alors exhortons-nous les uns les autres. Cette parole d'exhortation, nous devons l'accepter. Nous avons besoin de nos frères. Nous avons besoin les uns des autres. Savez-vous que simplement par un regard que vous avez pour quelqu'un, vous pouvez l'aider? Oh, que Dieu nous garde de ne pas être de ceux qui passent simplement sans regarder les autres. Il y a tellement de gens qui ne voient personne, qui ne se voient qu'eux. Mais quand vous voyez Jésus, vous voyez les autres. Jésus regardait les foules et son cœur était étreint de compassion. Et cela, c'était chaque jour de sa vie, son cœur était étreint de compassion. Eh bien, par un regard ou par une parole, dites seulement une parole. Si nous pouvions avoir un message pour nos frères, Il y a des fois des gens qui nous demandent, est-ce que vous avez une parole pour moi? Est-ce que j'en ai une? Qu'est-ce que je peux dire? Je m'en ai piqué un verset, puis je m'en vais lui donner ça. Est-ce que vous avez une parole pour moi alors? Où faut-il qu'elles soient ces paroles, si on me demande cela? Qu'elles soient dans mon cœur. Et que le Saint-Esprit discerne le besoin du cœur de la personne qui me demande une parole, et que je lui donne une parole. Et vous savez, quand cela arrive, bien souvent, on ne se souvient pas de la parole qu'on a donnée à telle personne. Mais il m'est arrivé, au bout de 30 ans ou de 40 ans, de rencontrer des personnes qui me disaient, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit il y a 40 ans? Puis cite la parole. C'est quand même fantastique, moi je m'en souviens plus. Bien sûr, je suis faible. Cette parole est restée dans mon cœur. Moi, je l'ai dit souvent, il y a des paroles qu'on m'a données quand j'avais 14 ans et qui me restent. Et je pourrais vous dire, le moment, le lieu où je l'ai reçu, à genoux sur un matelas, alors que j'avais 14 ans, va avec cette force que tu as. C'est une vieille anglaise qui m'avait dit ça. Eh bien oui, cette parole, elle est restée dans mon cœur. Juge 6, 14. Une parole qui venait du cœur de Dieu par un instrument. Et cet instrument, c'était qui? Un cher frère? C'était une chère sœur. Donc vous voyez que les sœurs peuvent aussi apporter une parole. Grand fut le nombre des femmes qui annoncèrent la bonne nouvelle. Vous connaissez ce verset? C'est dans la Bible, je vous laisse le trouver. Grand fut le nombre des femmes qui annoncèrent la bonne nouvelle. Ayez des paroles dans votre cœur. Alors vous pourrez vous exhorter l'un l'autre. Une sœur peut m'exhorter. Mais moi, je suis un frère. Est-ce que je peux accepter l'exhortation d'une sœur? Mais bien sûr, heureux êtes-vous si vous pouvez accepter l'exhortation d'une femme. C'est à une femme que le Seigneur a confié un message pour les grands apôtres. C'est drôle. Le premier message de Jésus ressuscité a été apporté par qui aux apôtres? Par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Elle était là. Elle avait été là. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché au Seigneur. Tout est là, mes bien-aimés. Et c'est par ça que je voudrais terminer cette fin de semaine, ou le début d'une semaine. Tout est dans cet amour, cet attachement qu'on a, pas pour une idée, mais pour la personne du Seigneur. Et alors, on a eu ce privilège aussi aujourd'hui de nous rassembler, d'être ensemble chaque jour. Nous devons, même si nous ne pouvons pas le faire physiquement, nous devons vivre en communauté. Vivre en communauté, c'est pas nécessairement tout abandonner pour habiter dans le même lieu. Mais il est dit, Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Cette vie communautaire, on ne se sent pas seul. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Et quand je ferme les yeux, je prie, je vois mes frères, je vois mes sœurs. Et nous sommes ensemble, nous sommes assemblés ensemble. Et alors vous verrez, si vous avez cette communion spirituelle dans votre vie quotidienne, si vous n'êtes pas seul mais que vous pensez à tel frère, telle sœur, et que vous vivez dans cette communion, le Seigneur ajoutera chaque jour à l'Église ceux qui doivent être sauvés. C'est le travail du Seigneur. Au lieu de se dire, combien est-ce que moi j'ai amené d'âme au Seigneur dans cette semaine, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que vous êtes toujours préoccupé de ce que vous avez fait. Seigneur, je veux vivre dans ta communion. Et en vivant dans cette communion, le monde verra quelque chose du Seigneur en vous. Et alors, chaque jour, vous pourrez le bénir, vous bénirez Dieu. Chaque jour, vous serez dans la gloire. Et ce que je voudrais, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette nuit, c'est de terminer par ce testament spirituel que nous trouvons dans l'évangile de Jean, et je vous donnerai seulement des pistes de réflexion qui permettront que vous ayez réellement reçu dans ces journées une nourriture spirituelle. Quand le Seigneur s'est vu rejeté par le monde Vous avez cela dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Le monde a rejeté le Seigneur. Le monde n'a pas voulu de lui. Alors Jésus s'est retiré avec ses disciples. Il a fini sa mission dans le monde, elle est finie en quelque sorte. Sa mission de prédicateur de l'évangile, elle est terminée au chapitre 12. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Alors, maintenant que les juifs complotent pour le crucifier dans ces derniers jours, Jésus se retire avec ses disciples. Depuis le chapitre 13, vous ne voyez plus Jésus parler au monde. Vous voyez Jésus parler seulement aux siens, à ses disciples. C'est d'abord le repas pascal. Et c'est dans ces chapitres 13, 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, ce qu'on appelle les entretiens de la chambre haute, c'est dans ces entretiens, dans ce moment intime, que le Seigneur ouvre son cœur et donne ses dernières exhortations à ses disciples. Comment vivre une vie chrétienne chaque jour, chaque jour? Eh bien, la première parole de Jésus dans ce testament, je la trouve au chapitre 13e. Quand il dit à ses disciples au verset 34e, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est ça votre évangélisation? Si vous allez parler partout de l'évangile, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ça le verset? Non. La puissance du témoignage, elle est dans l'amour chrétien. Dans l'amour que l'on a les uns pour les autres. Si le monde voit des gens qui s'aiment vraiment, qui ne sont ni frères du sang, ni frères de la chair, hein, mais qui ont vraiment une relation fraternelle, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Si en tant que couple, frères et sœurs, vous pouvez avoir cet amour l'un pour l'autre, le mari pour la femme pour le mari, le monde verra cet amour, et c'est là que ça commence. Si vous êtes mariés, demandez au Seigneur qu'il vous donne d'aimer votre mari comme qui? Comme Jésus a aimé. Est-ce que c'est ça? Si vous êtes mari, le Seigneur vous demande d'aimer votre femme comment? Comme? À aimer qui? Une femme agréable? L'Église. Vous croyez que l'Église est une femme agréable? Pauvre Église. Que de rides, que de tâches. Comme Christ a aimé l'Église. Parce qu'il la voyait déjà comme elle sera. Oh, que le Seigneur, par son esprit, visite nos couples, me visite moi-même, et que je puisse voir déjà ma femme comme elle sera. Non pas simplement comme elle est maintenant. Je ne dis pas qu'elle est insupportable, c'est pas ça. Non, mais comme elle sera. Et puis qu'il donne à ma femme, et c'est surtout elle qui en a besoin, de me voir aussi comme je serai, non pas comme je suis. Parce qu'il y a des tâches, il y a des rides, il y a bien des lacunes. Mais c'est ça l'amour. Aimer son mari, aimer sa femme comme le Christ. Et dans la certitude qu'un jour nous serons comme il est, comme lui. N'est-ce pas? Alors, l'être avec qui vous partagez votre existence, souvenez-vous qu'il sera comme tel que. Alors il y a tous les espoirs. Et faites cette prière, Seigneur, que je puisse t'aimer. Dans vos enfants, aimez vos enfants comme Christ. Laissez venir à moi les petits-enfants. Gardez-vous d'être une pierre de compression que vos enfants ont de votre vie. Et quand vous voyez vos enfants difficiles, vos enfants que vous ne pouvez presque plus supporter, regardez-les comme le Seigneur les regarde. Regardez vos enfants comme Jésus les regarde. Et il y aura dans ce regard une puissance qui pourra délivrer vos enfants. Un regard d'amour. Un père qui regarde son enfant. Qui le regarde avec amour même s'il a manqué. Père, n'irritez pas vos enfants. Enfants, honorez vos parents. Vous êtes convertis, vous êtes sauvés. Vous vous dites, mais mon père, lui, il n'est pas sauvé. Ma mère, elle n'est pas sauvée. C'est pas eux qui m'ont appris à connaître vraiment le Seigneur. Puis vous avez encore un peu d'amertume. Parce que vos parents ne vous ont pas éduqué dans la voie juste, peut-être. Puis vous les jugez. Vous voudriez qu'ils se convertissent. Mais quand vous allez les voir, c'est avec un esprit de jugement. C'est faux, ça. Vous allez voir vos parents dans le silence, peut-être, d'abord. Mais en leur montrant que vous les honorez. Honore ton père et ta mère. Ne condamne pas ton père et ta mère. Ils ne pouvaient pas vous donner plus que ce qu'ils avaient. Mais soyez vraiment là, dans l'amour pour eux. Parlez peu, vivez, que cette vie soit telle que vos parents commencent, eux, à vous poser des questions, à vous demander la raison de votre changement, la raison de votre espérance. Alors, vous verrez des transformations dans vos familles. Mais mes bien-aimés, je voudrais que vous puissiez croire éperdument que pour gagner vos parents qui ne vous comprennent pas, vos parents peut-être qui vous jugent parce qu'ils pensent que vous avez changé de religion, eh bien comprenez-les. Comprenez qu'ils ne vous comprennent pas. Parce que c'est ça, aimer. Aimer, c'est toujours comprendre. C'est se mettre dans la peau des autres. Se mettre aussi dans la peau de nos parents. Puis prier pour eux, puis être disponible. Le jour viendra, vous pourrez peut-être leur parler une minute, mais comme vous devez parler du Seigneur. Vous n'emploierez pas le nom de Dieu en vain, puis vous n'aurez pas un esprit de jugement. Nous sommes leurs enfants. Ça peut renouveler tout l'esprit dans cette province. Il y a eu trop de divisions dans les familles. Et on a pensé que c'était à cause du Seigneur. C'est à cause de nos fautes, amis. Nous n'avons pas su, je pense. Nous n'avons pas suivi le Seigneur. Nous sommes allés en disant, le Seigneur a dit qu'un père sera contre son fils, un fils contre son père. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le feu. Et voilà, on est des incendiaires. Pyromanes chrétiens. Pyromane évangélique. C'est pas comme ça qu'on mettra le feu à la province. Vous avez une responsabilité première pour vos parents. Parce qu'il est dit que nous devons montrer notre piété d'abord envers qui? Envers nos parents. Notre piété. Et qu'est-ce que c'est que la piété? C'est notre relation avec Dieu. Ben, c'est ça qu'il doit voir. C'est pas d'entendre vos discours. Parce qu'on n'enseigne pas à son père comme ça. On répond aux questions de son père. On n'enseigne pas à son père. On est prêt, en étant petit, à dire la raison de l'espérance qui est en nous. Soyez transformés par l'amour. Aimez, aimez encore, aimez toujours. Et alors la deuxième parole que le Seigneur nous dit, si nous aimons, qu'est-ce que nous ferons? après le verset 34 du chapitre 14 que je vous invite à noter, verset 34 du chapitre 13, donc, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qui était nouveau? Le commandement d'aimer, est-ce qu'il était nouveau? Non. Ce qui était nouveau, c'est d'aimer comme lui a aimé. On n'avait pas vu cet exemple-là. Mais ce commandement d'aimer, c'était le commandement ancien, vous l'aviez déjà dans Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, nous l'avons lu hier. Hein. Mais ce qui était nouveau, c'est d'aimer comme Jésus. Pas parce qu'on trouve quelque chose d'aimable en l'autre, mais dans notre cœur, il y a cet amour. Aimer comme je vous aime. Alors Seigneur, aime à ma place. Mais Jésus disait ensuite, si vous m'aimez, eh bien, chapitre 14, verset 15, vous voyez que c'est une conséquence. Si on aime, on obéit. L'obéissance est un fruit de l'amour. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, ou vous garderez mes commandements. Garder ces commandements, c'est les mettre en pratique. C'est vivre vraiment de cette parole. C'est se laisser reprendre par cette parole. C'est demander au Seigneur que cette parole se réalise en nous. La doctrine du Seigneur, on a parlé de cette doctrine, n'est-ce pas? La doctrine du Seigneur, c'était sa vie en quelque sorte. La doctrine de Jésus, c'était sa vie. Sa vie, c'était sa doctrine. Il n'y avait pas de séparation entre sa doctrine et sa vie, entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Il était la réalité. Alors, que nous soyons non plus de ceux qui parlent seulement, mais de ceux qui vivent. Seigneur, donne-moi de la réalité et donne-moi de garder ta parole, de garder tes commandements. Il y a des commandements qui sont très précis et nous savons clairement ce que le Seigneur désire. Mais quand il est question de garder sa parole, bien c'est garder sa pensée. Et il n'est pas nécessaire que nous ayons dans la Bible des « tu dois » ou « tu ne dois pas » sur tous les points. Quand on vit avec le Seigneur, on connaît sa pensée et il n'a pas besoin de nous dire toujours ce que nous avons à faire, mais on connaît sa pensée. Et connaissant sa pensée, même s'il ne nous a pas dit une chose, on la sait parce qu'on sait que c'est sa pensée. C'est là la différence qu'il y a entre garder ses commandements et garder sa parole. Garder ses commandements, c'est un fait précis qui nous est donné. Mais garder sa parole, on n'a pas une parole écrite, mais on sait ce que Dieu pense. Alors on le sait, et puis alors qu'est-ce qui découle de là? Si vous m'aimez, vous obéirez. Et si nous obéissons, nous manifestons quoi? Chapitre 15, que nous demeurons en lui. Demeurez, chapitre 15, verset 4, la troisième parole, qui résume tout l'enseignement de Jésus, demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Si vous voulez que ce soit une réalité, la présence du Seigneur en vous, il faut demeurer en lui. Ici, le texte de la traduction en français courant, demeurez unis à moi. Vous voyez, c'est union totale. Demeurez unis à moi dans ma mort et dans ma résurrection. Demeurez en moi. Et si nous demeurons en lui, eh bien, lui demeurera en nous. Alors, si lui demeure en nous, c'est lui qui sera vu. C'est lui qui regardera par nos yeux, qui écoutera par nos oreilles, qui parlera par notre bouche, qui aimera par notre cœur, qui servira par nos membres, par nos mains, qui se déplacera par nos pieds. Quand Dieu a voulu se manifester dans le monde, il a eu besoin d'un corps. Eh bien, l'incarnation du Seigneur se continue dans les membres de son corps. Le Seigneur veut se manifester au monde par vous. C'est pourquoi il a dit, livrez vos corps, pas seulement votre âme, mais votre corps, ce qui est visible. Et je me suis souvent demandé, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce verset, demeurez en moi? Et un jour, le Seigneur a arrêté mes pensées au chapitre 6 de Jean. Et là, on a le secret, ce que c'est que demeurer en lui. Il est dit au chapitre 6 de Jean, au verset 55, « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson ou un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi ou vit en moi et je vis en lui. Alors qu'est-ce que c'est manger sa chair et boire son sang? J'aime à vous dire tout simplement, c'est l'aimer. Manger, c'est l'aimer. Boire, c'est croire. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de mon sein. Vient manger sa chair, c'est l'aimer. L'aimer de cet amour total qui fait dire quelquefois, dans notre langage courant, quand on aime quelqu'un, je te mangerai. C'est mon aime, je te mangerai. Et la mère qui voit son petit enfant, qui dit, il est tellement mignon, je mangerai. Aimer, c'est se nourrir de sa personne. Boire, c'est croire que tout ce qu'il a dit est vrai. Eh bien, si vous demeurez en lui, lui demeurera en nous. Puis plus loin, alors qu'est-ce qui arrive quand on demeure en lui? On porte du fruit. Le Seigneur ne nous demande pas de porter du fruit sans nous avoir montré comment on peut porter du fruit. Alors, chapitre 15 de Jean, il est parlé de la vigne, ou du cep de vigne, et du père qui est le vigneron, et il nous est demandé de porter du fruit. Et il est dit, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez, mais d'abord au verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc la quatrième parole, c'est porter du fruit. Le Seigneur nous invite à porter du fruit. Donc aimer, obéir, demeurer en lui. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? De porter du fruit. Mais pour porter du fruit, bien, il faut demeurer en lui. Si je ne porte pas de fruit, c'est que je ne demeure pas en lui. Mais si je suis en lui, qui est la vraie vigne, le vrai cep, je suis un sarment, et la vie du cep va couler dans le sarment et permettre que je porte du fruit. Ce n'est pas mon fruit, c'est le fruit de sa vie. Ce n'est pas le fruit du sarment, c'est le fruit de la vie du cep qui coule dans le sarment. Et alors le Seigneur trouvera bon de couper les branches gourmandes, il émondera la branche pour que nous portions plus de fruits. Non seulement le Seigneur veut que nous portions du fruit, mais plus de fruits, et un peu plus loin, beaucoup de fruits, et finalement, du fruit qui demeure. Et il nous dit que ce n'est pas à nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi pour que nous allions et que nous portions du fruit, et du fruit qui demeure. Pas seulement une promesse à la conversion, il semble qu'il y aura beaucoup de fruits dans cette vie, c'est une apparence, mais il n'y a pas de fruits qui demeurent. Il faut qu'on puisse traverser toutes les saisons et toutes les intempéries, et qu'à la fin, il y ait un fruit mûr pour le Seigneur. Conséquence donc de demeurer en lui, on portera du fruit. Deuxième conséquence, si nous demeurons en lui, qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous pourrons demander. C'est quelque chose de formidable. Verset 7 alors. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez quoi? Ce que vous voulez. Vous voyez jusqu'où ça va? Vous demanderez ce que vous voulez. Alors la question, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont jamais exaucés. Non, nous devrions être des gens exaucés. Nous devrions pouvoir parler d'exaucement de prière. J'ai demandé au Seigneur, il m'a donné. Il m'a donné ce que j'ai demandé. Mais quand on demeure en lui, on demande que des choses que lui aurait demandées. C'est ça demander au nom de Jésus. C'est pas finir toutes nos prières au nom de Jésus. Amen, en mettant cet appendice à la fin de nos phrases. Demander au nom de Jésus, c'est demander à sa place. C'est comme si Jésus vous donnait une procuration pour tirer sur son compte tout ce dont vous avez besoin. Le compte est auprès du Père. je m'en vais au Père au nom de Jésus. Et je retire sur son compte. Et le compte, il est toujours approvisionné, le compte du Seigneur. Vous ne trouverez jamais son compte vide. Le compte du Seigneur est toujours approvisionné et les chèques que vous tirez seront honorés. C'est cela qui est merveilleux. Vous demanderez. Vous demanderez, mais vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire à ma place. Alors vous demandez des choses qui sont selon sa volonté. Et si vous demandez quelque chose selon sa volonté, 1 Jean chapitre 5, verset 14 et suivant, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous savez que Dieu vous écoute. Et si il vous écoute, vous savez que vous avez. Non pas que vous aurez, mais que vous avez déjà les choses que vous lui avez demandées. Alors, ça c'est vrai aussi. Si vous dites au Seigneur, mais tu as dit que j'étais mort, ben Seigneur, fais que je sois mort. Hein. C'est après. Est-ce que c'est une chose qui est selon la volonté de Dieu? Bien sûr. Alors, remerciez de ce que c'est fait. Avant d'en éprouver vraiment le résultat. Dans le chapitre 11 de Marc, il est dit ceci. Quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous le recevez. Et vous le recevrez. Mais croyez que vous l'avez reçu. Ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu. Et n'attendez pas de l'avoir visiblement pour remercier. Remerciez avant d'avoir reçu. Alors vous avez une certitude, vous demanderez. C'est pourquoi la parole qui suit cette exhortation du Seigneur de demander, c'est le verset 1er et 2e du chapitre 14, si je résume tout cela. Ne soyez pas inquiets, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comme vous avez demandé, croyez. Aimez, obéissez, demeurez, portez du fruit, demandez, et si vous avez demandé, croyez. Croyez. Voilà la 6e parole que Jésus donne dans son testament. Je dois être un homme qui croit. Vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Ne soyez pas inquiets. L'inquiétude, voyez-vous, c'est servir deux maîtres. Je le dis pour moi. Et je me délivre de mes inquiétudes qu'en les appelant péchés. Une inquiétude est un péché. Quand vous avez compris cela. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons inquiets. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous mettez-vous en souci? C'est pourquoi je vous dis, ne vous mettez pas en souci. Après que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Hein? Ou l'un ou l'autre. C'est pourquoi je vous dis, ne vous mettez pas en souci. Donc, quand je me mets en souci, c'est déjà que j'essaye de servir deux maîtres. Alors, je m'humilie. Et je confesse mon souci comme un péché. Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement pour courir la course. C'est ce que vous avez dans Hébreux chapitre 12. Nous avons à considérer nos soucis, nos fardeaux comme des péchés. Et les rejeter sur qui? Sur Jésus. Et comme je dis quelquefois, la moitié du temps, on jette son fardeau devant soi. On le retrouve. Hein? On le jette un peu plus loin. Puis on avance, puis on retrouve notre fardeau, puis on le reprend, non? On n'est jamais délivré. Rejeté sur tout fardeau. Alors croyez, croyez. Et quand vous avez cru et que vous êtes exaucé, ben rendez témoignage. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, il y a une suite logique. Aimez, obéissez à ses commandements si vous l'aimez. Si vous obéissez à ses commandements, vous demeurerez en lui, lui demeurera en vous, vous porterez du fruit, vous demanderez au Seigneur, et en demandant, vous croyez au Seigneur, à sa puissance, puis vous rendez maintenant témoignage. C'est ce que vous avez à la fin du chapitre 15, verset 27e, dans la traduction seconde d'Arbil, il dit « Rendez témoignage ». Vous aussi, vous rendrez témoignage. Ou, ici, dans la version français courant, « Vous parlerez de moi ». Vous aussi, vous parlerez de moi. Parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. N'est-ce pas? On est autorisé à parler de lui parce qu'on a été avec lui dès le commencement. Et il faut toujours revenir au commencement. ce que je vous disais. Si on ne revient pas au commencement, on ne revient pas à Dieu. Dieu, il est au commencement. Alors revenez au commencement. Et Dieu est avec vous. Tout change, tout recommence avec Dieu. Et vous pouvez toujours recommencer. Il n'y a pas besoin de suivre. Recommençons. Revenons au point de départ. Et nous rendrons témoignage. Mais c'est justement quand nous aurons rendu témoignage, c'est là. Quand vous avez rendu témoignage, et que vous êtes heureux d'avoir pu rendre témoignage, qu'est-ce qui vous attend? Le découragement, on va vous critiquer. Automatiquement, on va essayer de vous faire broncher. Alors Jésus dit au chapitre 16, je vous ai dit cela pour que vous n'abandonniez pas la foi, pour que vous ne vous découragiez pas. Parce que c'est après, justement, le moment de témoignage où vous avez été secouru, où vous avez témoigné de la puissance de Dieu, que vient le doute. Immédiatement, il y aura une autre circonstance qui vous plongera. Vous étiez tellement heureux que voilà de nouveau c'est la nuit. Et le Seigneur dit, mais je vous ai dit, c'est ce que je vous ai averti pour que vous ne perdiez pas courage. Car quand on a rendu témoignage, eh bien, il y a l'épreuve qui vient. On va voir s'ils tiennent ça, ils disent ça. Et voilà maintenant, ils sont dans l'épreuve, et c'est visible, c'est public. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça a l'air de contredire tout ce qu'on a dit. C'est là. Eh bien, Jésus dit, je vous ai dit ça à l'avance, pour que vous ne perdiez pas courage, pour que, après votre témoignage, il n'y ait pas le rocher de chute qui vous fait broncher. Mais vous pouvez être sûr de cela, après avoir rendu témoignage au Seigneur, il y aura l'attaque, la contre-attaque. Et c'est là que vous risquez de glisser. Alors le Seigneur vous a averti qu'après avoir rendu témoignage, eh bien, vous ne devez pas être scandalisé par ce qui arrive. Ne soyez pas, littéralement, ne soyez pas scandalisé. Maintenant que vous dites, mais comment je t'ai rendu témoignage qu'il m'arrive une chose comme ça? Seigneur éprouve, pour donner du poids à ton témoignage. Et ensuite, quelle est alors la parole suivante? Eh bien, non seulement vous allez ne pas vous décourager, mais vous allez rester dans la joie. Quand vous avez pu surmonter ce moment difficile, après avoir rendu témoignage, vous n'êtes pas scandalisé, c'est le huitième point, eh bien, vous gardez la joie du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voyez verset 11e, soyez toujours joyeux. C'est ce que le Seigneur disait dans le résumé de son testament spirituel. Verset 11 du chapitre 15, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit complète. Vous voyez, c'est toujours « je vous ai dit cela ». Le Seigneur vous dit une parole en vue de quelque chose. « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous. » Ce n'est pas notre joie à nous, c'est sa joie. Et de cette joie, il en parlait quand il allait à la croix. Que pourtant c'était la souffrance. Il allait à la croix, mais il parlait de sa joie. La nuit où il fut livré, il a parlé de sa joie. Quelle était cette joie? Eh bien, cette joie de savoir que par-delà la croix, il y aurait un résultat. Il est dit qu'à cause de la joie qui était devant lui, le Seigneur a méprisé la honte, parce qu'il sait le résultat. Mais vous aussi, vous savez comment ça finira. Est-ce que vous croyez que ça finira bien? Dites-moi un peu, pour vos vies. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi découragés qui disent « ça finira mal » Non, moi, ça finira mal. Je vous le dis en toute humilité, ça finira bien. Ça ne peut pas mal finir si vous êtes dans le Seigneur. Et c'est ça que vous devez croire. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et ça, vous ne devez pas vous la laisser ravir. Personne ne vous ôte votre joie. J'en suis le Seigneur qui le dit. Vous pouvez accepter toutes les épreuves, mais il y en a une que vous devez refuser. C'est de perdre la joie. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre la joie? Ben, le péché qui n'est pas jugé, le péché qui n'est pas confessé. Mais autrement, les épreuves ne doivent pas vous faire perdre la joie. C'est dans le programme. Mais vous n'êtes pas heureux parce que ça va bien. Vous êtes heureux parce que vous le connaissez. Oui. C'est pour ça que je disais, c'est un certain bonheur, la vie chrétienne. C'est pas n'importe quel bonheur. C'est le bonheur d'être en lui, dans toutes circonstances, en tout temps, et vous savez que lui vous aime. Alors, la dernière parole, la dixième, pour tout résumer, vous allez partir, nous aussi on va se séparer. Vous allez retourner dans le monde, ici nous étions un peu hors du monde, nous étions ensemble. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix. Dans l'union avec moi. Vous voyez que c'est toujours dans l'union avec le Seigneur. C'est toujours en lui que nous avons la paix. La joie et la paix. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais, ayez bon courage, prenez courage. Voilà la dernière parole du Seigneur. Prenez courage, ayez bon courage. Mais il ne vous dit pas que tout ira facilement. Il vous dit, vous aurez à souffrir. Et ici, le texte du français courant, soyez courageux. Soyez courageux. C'est le Seigneur qui vous le dit. Pour quelle raison? J'ai vaincu le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est contre. Si c'était vous-même qui partiez tout seul, vous pourriez être désespéré. Mais puisque il est en vous, ayez bon courage. Qu'est-ce qui a vaincu? Est-ce vous? C'est lui. J'ai vaincu. De sorte que la victoire du Seigneur est votre victoire. Ma victoire est dans sa victoire. Moi, je ne suis jamais victorieux. C'est lui qui est victorieux en moi. Alors donnons toute gloire au Seigneur. Voilà pourquoi le chrétien, ce qu'il caractérise, c'est un homme qui donne gloire. Il ne s'attribue rien à lui. Et il n'applaudit que le Seigneur. Nous nous applaudissons les uns les autres. Puis vous savez, c'est un geste souvent qui ne dit rien et qui est souvent mensonger. Mais tout le monde le sait, alors on applaudit. Nous donnons la gloire au Seigneur. Quelqu'un a un don, nous donnons la gloire au Seigneur. Et nous nous réjouissons, nous ne le jalousons pas. Alors repassez ces choses dans votre cœur chaque jour. Ça, c'est une vérité quotidienne. Choisissez la confiance. Choisissez l'espérance. Rejetez le découragement. Le découragement, ce n'est pas pour vous. Ayez bon courage. J'ai vaincu. Prions. Ô Dieu, nous te remercions de nous avoir montré que cette vie chrétienne, c'était ta propre vie qui sera manifestée en nous dans la mesure où nous nous livrons à toi. Et nous voudrions, en réponse à ton attente, te dire en ce 21 février 1982, Seigneur, sur ton autel, nous venons t'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, afin que ces corps que le monde voit soient la manifestation que tu vis en nous. Que ta vie nous anime et que cette vie n'est pas celle que nous avons reçue de la chair et du sang, mais que nous avons reçue de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous qui sommes nés d'eau, de l'action de la parole et de l'Esprit. Et qu'ainsi nous soyons des gens qui voient le royaume de Dieu, qui ont un regard sur le royaume de Dieu, qui contemple les choses invisibles, car celui qui n'est pas né de nouveau
ne voient pas. Donne-nous de les voir. Et parce que nous les voyons, donne-nous de marcher avec confiance. Lors même que tout est noir autour de nous, que nous puissions voir cette lumière et marcher dans la lumière.